Et bonjour à tous, c'est l'un des fleurons du sport français. Le Mulhouse Olympique Natation est aujourd'hui dans la tourmente après l'ouverture d'une enquête préliminaire. Conflit avec d'anciens champions et des parents de nageurs, imbrication entre associations à but non lucratif et sociétés privées. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Vous avez enquêté sur ce club et sur ses dirigeants, la famille Orter, et vous allez donc nous faire part de vos découvertes. Et puis nous recevrons Simon Henry en duplex de Lille. Bonjour également.
Bonjour.
Alors pour le site d'investigation régional Médiacité, vous avez enquêté sur une pratique assez répandue dans le Nord-Pas-de-Calais. Des agriculteurs, lorsqu'ils quittent la ferme qu'ils louaient, demandent à leurs successeurs de payer des dessous de table qui peuvent atteindre des sommes astronomiques.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Souvent on m'a demandé, mais cette piscine, ils n'ont pas donné ton nom à la piscine? Et en fait, je me posais même pas la question, tellement pour moi, c'était une évidence qu'elle devrait s'appeler soit la piscine Laurent Orter, soit Lionel Orter, soit Franck Orter, parce que cette famille, elle a porté ce club à bout de bras. Et voilà, bah, que l'aventure continue. Merci à vous.
Voilà, c'était le 12 avril 2019. Vous avez peut-être reconnu l'actuelle ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu. L'ancienne championne du monde de natation revient chez elle à Mulhouse, où une piscine a été baptisée à son nom. Et elle en profite pour rendre hommage à la famille Orter, une famille qui a largement contribué au succès de la natation française, Sylvain Tronchet.
Oui, Orter, c'est un nom omniprésent dans la natation depuis plus de 30 ans. Il y a le père, Laurent, qui a créé le Mulhouse Olympique Natation. Là-bas, on dit le MON. Il y a la mère, Marie Octavie, qui a été vice-présidente de la Fédération Française de Natation. Le premier fils, Lionel, entraîneur de renom, qui a été patron de l'équipe de France. Et puis le deuxième fils, Franck, ancien sélectionné olympique, c'est l'actuel président du club et il est aussi fournisseur d'équipement pour la fédération.
Et c'est donc toute cette famille qui, peu à peu, a bâti l'un des clubs les plus prestigieux de France.
Et leur grande réussite, c'est d'avoir fait construire sur fonds publics un centre d'entraînement à Mulhouse. Comme l'a raconté Éric Lamy, il a été journaliste à l'équipe et il a observé l'ascension de la famille Orter.
Mulhouse a fait un truc extraordinaire qui était cette organisation autour de leur centre d'entraînement. Ils ont fait des choses vraiment remarquables. Cette organisation, elle a les défauts de ses qualités. Donc, les défauts de ses qualités, c'est qu'ils ont vraiment fait tourner tout ça autour d'eux, quoi. Je veux dire, quand vous voyez le bureau directeur du Mulhouse Olympique Natation, vous avez Orter, 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 Orter. Il y en avait que pour eux.
Il n'y en avait que pour eux, mais qu'est-ce qu'il veut dire précisément ?
Eh bien, dans le milieu de la natation, il se dit que leur omniprésence à tous les étages leur permettait parfois de favoriser leur club au détriment des autres. Mais bon, on peut retrouver ce genre d'exemple dans de nombreux domaines. Sauf que ces derniers temps, plusieurs éléments sont venus jeter le trouble sur leur méthode de gestion.
C'est-à-dire ?
Bien, notamment un contentieux avec Yannick Agnel, le champion olympique de natation. Il signe à Mulhouse en 2014. Il vient de traverser une période difficile à ce moment-là, mais tout semble bien aller en Alsace, comme le raconte à l'époque ce reportage de RMC Sport.
On ne l'avait pas vu aussi souriant depuis très longtemps. Yannick Agnel revit à Mulhouse.
Tous les gens ici sont vraiment adorables, gentils, serviables, droits, honnêtes. Je suis vraiment choyé ici, je suis comme un prince et j'ai vraiment l'impression d'être chez moi, quoi.
Ouais, donc à l'entendre, à ce moment-là, tout va bien, très bien même.
Oui, pour le club aussi, un champion de ce calibre, c'est notamment plus de subventions. Les collectivités locales sortent le chéquier pour aider le MON à financer la venue de la star de la natation. Mais en fait, sportivement, ça ne se passe pas bien. Et ça se termine mal même 2 ans plus tard. Yannick Agnel met fin à sa carrière après des JO ratés. Et à ce moment-là, le club décide de ne pas lui payer sa dernière année de contrat, 60 000 euros.
Et pour quelle raison ?
Eh bien, pour faire court, les dirigeants estiment qu'il n'a pas rempli ses engagements. Et l'actuel président du club, Franck Orter, que je suis allé voir, n'a pas des mots très tendres à son égard.
Les 2 ans ont été un enfer avec Yannick Agnel. Aux Jeux Olympiques, c'est là, ça devient n'importe quoi. Enfin, il fout le bordel pas possible dans le relais 4x2, il fait la une de l'équipe en permanence, enfin, ça devient un drame pas possible. Et il annonce en plein Jeux Olympiques qu'il prend sa retraite, alors qu'on n'est absolument pas au courant. Pour lui, Yannick, il pense pas un seul instant aux Jeux Olympiques natation, comment on a fait pour financer sa venue. Il nous fait passer pour des débiles sur la place de Mulhouse. On a mis des mois et des mois et des mois à retrouver une relation à peu près saine avec les élus, On a subi son annonce dans les médias.
Ouais, donc lui estime avoir été victime de Yannick Agnel.
C'est sa version. Mais quand Yannick Agnel a décidé de porter l'affaire en justice, le 7 juillet dernier, eh bien la justice, elle a condamné le club à payer les 60 000 euros qu'il devait au nageur.
Bon, d'accord Sylvain, maintenant ça c'est un conflit du travail, comme il y en a beaucoup entre un employeur et un employé.
Oui, mais ce que j'ai découvert par la suite, c'est que Yannick Agnel n'était pas le seul à estimer avoir été lésé. L'ex-médaillée olympique Coralie Balmy, elle aussi a été en conflit avec Mulhouse. Elle estime que le club ne lui a pas tout payé. L'ancien champion d'Europe, Stéphane Rouault, a dû avoir recours à un avocat pour obtenir son dû. Et puis, dans un livre paru en 2015, l'ancien champion olympique Amaury Levaux a écrit ceci.
Après les championnats d'Europe en 2008, la ville de Mulhouse m'a donné une prime de 15 000 euros pour mes bons résultats. Les dirigeants m'ont fait signer un papier selon lequel cette somme serait directement versée au club. Comme un idiot, j'ai accepté. Le club m'a reversé 5 000 euros, mais je n'ai jamais vraiment revu les 10 000 euros qui me restaient dus. Ce n'est pas faute de les avoir réclamés pendant 6 mois. Quand je suis parti, j'ai compris que je pouvais faire une croix dessus.
Ah oui, donc ça fait quand même pas mal de nageurs qui sont en conflit avec leur ancien club.
Et j'ai aussi découvert que certains nageurs sous contrat avec TIR, la marque représentée par le président du MON, Franck Orter, ceux-là avaient également connu le même genre de problème. Camille Lacour, il a dû missionner un avocat pour faire exécuter son contrat. Et puis un nageur de l'équipe de France, Dorian Gandin, a fait condamner une des sociétés de Franck Orter. Et tout cela n'étonne pas de nombreux interlocuteurs que j'ai rencontrés, dont le journaliste Éric Lamy.
Le président du club de Marseille, M. Jamet, il me disait, ça le faisait rigoler, que quand il a fait signer les nageurs qui étaient à Mulhouse et qui sont venus chez lui, bon, il y a un petit contrat où ils reçoivent un peu d'argent. Il me disait, ils étaient étonnés qu'au début du mois, leur compte bancaire ait été provisionné. Parce qu'à Mulhouse, pareil, ça n'arrivait pas souvent, quoi.
Ouais, il n'y a pas que certains nageurs qui sont en conflit avec le club, Sylvain. Certains parents aussi s'étonnent de la manière dont ils fonctionnent.
Oui, j'ai rencontré le père d'une jeune nageuse, Jean-François Bernard. Il m'a raconté comment, depuis 4 ans, il essaye de récupérer une aide que le MON lui avait promise quand sa fille a intégré sa section sport-études.
Le club avait décidé de nous aider financièrement, 1900 euros par famille, qui doit aider la scolarité, qui vaut à l'époque 5000 euros. On ne pouvait pas supporter la scolarité de 5000 euros et il nous fallait une subvention. Cette subvention ne sera jamais versée aux parents. Quand notre fille quitte le club au mois de juillet, on s'aperçoit très vite, en discutant avec les autres nageurs, que la subvention n'a jamais été versée.
Ah oui, donc lui aussi estime qu'on lui doit de l'argent.
Ce qui est sûr, c'est que le club lui a promis de lui verser 1900 euros grâce à une subvention qu'il avait touchée de la région. Comme l'argent ne leur était pas versé, les parents Bernard ont saisi un conciliateur de justice. Conséquence, quelques semaines plus tard, ils reçoivent une facture du club de 5417 euros.
5417 euros à verser au club. Et pourquoi ?
Eh bien, le club explique que le comportement de la fille de Jean-François Bernard lui donnait le droit d'appliquer une sanction financière. C'est ce que dit Franck Orter.
Le problème de Margot Bernard, c'est qu'elle a eu un comportement qui a conduit à son exclusion. C'est-à-dire tout le monde a dit, bon, maintenant on ne peut pas continuer comme ça, on arrête. Il faut savoir qu'un sportif de haut niveau coûte au club environ 20 000 euros par an. Et à ce moment-là, la direction du club de l'époque prend une décision en disant, nous avons investi énormément d'argent sur cette fille, elle a eu un comportement absolument scandaleux qui ne respecte pas le règlement intérieur du club, nous l'excluons et nous prenons une sanction financière.
Oui, ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à Yannick Agnel.
Oui, sauf que l'exclusion dont parle Franck Orter, il n'en existe aucune trace. Pas de courrier aux parents, pas de compte-rendu de réunion. Et Jean-François Bernard n'a jamais été avisé d'une sanction financière.
Ils ont simplement dit que le 12 juillet, ils avaient exclu Margot, qu'ils avaient réuni le comité directeur du club pour exclure Margot pour mauvais comportement. Mais le 25 juillet, elle faisait les championnats de France de natation à Amiens, championnat de France cadet. Donc on n'a pas tellement bien compris comment on pouvait être exclu le 12 juillet et nager sous les couleurs du MON le 25 juillet.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait alors, le père de cette nageuse ?
Eh bien, il a porté plainte pour escroquerie. Il y a une instruction qui dure depuis maintenant 3 ans. Le club et l'ancien président Laurent Orter sont placés sous le statut de témoin assisté. En attendant, j'ai aussi rencontré d'autres parents qui ont reçu des factures du MEUN qui ne leur plaisent pas vraiment.
Et quel genre de factures ?
Alors, pour vous expliquer, l'État, via les fédérations sportives, verse des aides aux sportifs de haut niveau. Et le MEUN a décidé que les parents devraient en reverser une partie au club. Un des parents que j'ai rencontré m'a raconté sa stupéfaction quand il a reçu la facture. Il a demandé à rester anonyme. Nous avons fait lire ses propos.
Quand j'ai reçu cette facture, je n'en croyais pas mes yeux. Plusieurs milliers d'euros pour des frais de stage, la préparation physique et mentale, des compléments alimentaires. C'est tout, aucune précision. Les compléments alimentaires, par exemple, mon enfant n'en a jamais pris. L'impression que ça donne, c'est que le club cherche à récupérer une part des aides auxquelles nous avons droit.
Mais c'est légal, ça ?
Alors, effectivement, un club peut facturer des prestations à ses athlètes. Le système existe, mais il est très encadré et surtout doit correspondre à une vraie prestation, comme me l'a expliqué Laurent Subini, c'est le directeur général de la Fédération française de natation.
Il y a des clubs, on va dire les trois quarts, avec qui ça s'est très très bien passé. Tout le monde a compris la philosophie et la mise en œuvre. Et on a eu quelques clubs, dont le MEUN, où des parents se sont un peu insurgés en disant « mais je comprends pas, on me donne 6 000, c'est pour moi, c'est pas pour redonner de l'argent au MEUN ».
Du coup, le MEUN a émis des factures. Par exemple, il est indiqué que l'athlète bénéficie de compléments alimentaires et que les athlètes en question me disent « mais non, j'ai jamais eu de compléments alimentaires ». Par exemple, sur la facture.
Ok. Ça, là, du coup, c'est pas bien.
Il faut qu'une facture corresponde à quelque chose. On est d'accord.
C'est obligatoire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le dispositif a été conçu. C'est pas.
Oui.
C'est ok. Donc ça, il faut peut-être qu'on regarde de plus près qu'est-ce qui s'est passé au niveau du MEUN sur ces trucs-là.
Il faut qu'on regarde d'un peu plus près.
Oui, d'autant plus que certains parents affirment qu'ils n'ont pas signé les conventions qui sont obligatoires normalement sur ce genre d'opération.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu que certains nageurs reprochent au club de natation de Mulhouse de ne pas les avoir payés correctement, tandis que des parents, eux, estiment avoir reçu des factures injustifiées, élargissons un peu la focale, Sylvain Tronchet, pour examiner maintenant plus globalement comment fonctionne ce club.
Oui, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la natation, c'est un sport très dépendant de l'argent public. Un club comme le MEUN touche jusqu'à 1 million d'euros de subventions et d'aides publiques par an, plus la mise à disposition de son centre d'entraînement, une piscine à 7 millions d'euros, dont le propriétaire est son plus gros financeur, l'agglomération de Mulhouse. Là-bas, on l'appelle M2A. Son vice-président, Daniel Bux, m'a expliqué pourquoi ils avaient autant investi sur le MEUN.
Ce club représente essentiellement l'excellence sportive. C'est ce qui a été retenu au départ pour justifier à l'époque de construire ce centre d'entraînement et de le confier à un club, le MEUN. Et puis, il y a le côté politique, un petit peu, de cette mise en place. Laurent Orter était une figure emblématique au niveau mulhousien, au niveau sport mulhousien. Et ses relations avec Jean-Marie Bocquel, et ensuite aussi avec Jean Rotner, qui était maire à l'époque, lui ont permis d'aboutir à un résultat qu'il espérait depuis pas mal de temps.
Oui, donc le club s'est aussi construit grâce aux politiques.
Oui, ça c'est très classique. Le montage, là, en revanche, est plus inhabituel. La piscine est en réalité exploitée par 2 structures. Une association, le MEUN, pour la partie compétition, et une société qui s'appelle MEUN Club pour la partie loisirs. Et qui sont les actionnaires de la société ? Des membres de la famille Orter.
Ce qui peut se comprendre, puisque ce sont eux qui gèrent le club et après tout, la natation, ils connaissent bien, non ?
Oui, mais j'ai découvert une chose étrange. Cette société, pour occuper les lieux et exercer ses activités dans un bâtiment public, elle doit payer une redevance d'occupation, normale. Or, tous les ans, l'agglomération ne lui fait pas payer la totalité du loyer prévu. Il manque, selon les années, entre 50 et 100 000 euros. J'ai montré ces chiffres à Daniel Bux, le vice-président de l'agglomération.
Vous n'avez pas facturé aux alentours de 70 à 80 000 euros à la SARL MEUN Club qu'elle vous devait. Sur 7 ans, ça fait près de 500 000 euros. Vous êtes au courant de ce...
Non, là je découvre.
Il découvre.
Oui, et moi j'ai découvert autre chose. Pour payer le loyer, l'agglomération verse à l'association MON une subvention, 270 000 euros par an. Or, il ressort de plusieurs courriers et d'une note interne que j'ai obtenue qu'il existe un accord tacite entre les dirigeants du MON et de l'agglo pour que l'association reverse à la société privée une partie de la subvention.
Attendez, donc indirectement, l'agglomération subventionne une société privée ?
Oui, et ça sur le principe, c'est interdit. Hein. Alors, je suis allé demander à Franck Horter si c'était le cas. Il a commencé par nier avant que je lui présente un courrier.
Il y a un accord entre vous. Les 270 000 de subventions que vous les touchez sur MON, l'association, et derrière, vous vous engagez à transférer la quote-part vers MON SARL.
Je serais extrêmement surpris qu'une personne de M2A vous ait dit ça.
M2A ne m'a jamais dit ça. C'est vous qui l'avez écrit, monsieur Horter. C'est vous qui avez écrit ça.
Je pense que pour que vous ayez ce document, la personne qui vous l'a remise, vous me signifiez d'où viennent les documents. Alors, on peut se remettre en off,
on peut se remettre en off, et alors vous les avez eues, ces explications ?
Mais rien qui permette de comprendre pourquoi ce genre d'accord semble exister. Mais l'agglomération semble quand même avoir de curieuses relations avec ce club de natation. Il semble même qu'elle ait ignoré des signaux d'alerte assez sérieux.
C'est-à-dire ?
Il y a 3 ans, la Chambre régionale des comptes réalise un audit des piscines de Mulhouse. Et elle découvre que certains éléments financiers que déclare le MON à la collectivité sont faux. Je me suis demandé si l'agglomération, depuis, avait demandé des comptes au club sur ce point. J'ai posé la question à son vice-président, Daniel Bux.
Il y a 3 ans, il y a quand même une alerte sérieuse avec ce rapport, non ?
Oui, je suis d'accord. Bien sûr que ça nous a alertés. Bien sûr. C'est pour ça qu'on met la pression pour obtenir les vrais chiffres.
C'était en 2017.
2017, oui, mais n'oubliez pas le côté politique. Qui est très important.
C'est-à-dire ?
Mais les relations politiques entre les humains.
J'arrive pas à comprendre.
Quand il y avait un souci au niveau du club, c'est pas chez nous qu'il venait. Il allait au niveau dessus. On nous dit toujours, tout va bien, on va vous produire tel document, telle chose. On téléphonait à Bockel, on téléphonait à Rottner, et puis ça s'arrangeait. Ça s'arrangeait en attendant la prochaine production de documents.
Ce que vous me dites, vous, c'est qu'en clair, Rottner, Bockel, comme vous dites, ont couvert ou permis que la situation continue à être dégradée ?
Je n'ai pas dit ça, ils ont essayé de l'arranger.
Oui, alors Rottner, Bockel, on va quand même repréciser.
Jean-Marie Bockel, hein, c'est l'ancien maire de Mulhouse, et c'est Jean Rottner qui lui a succédé et qui est aujourd'hui le président de la région Grand Est.
Et donc, à entendre cet adjoint, ils auraient fermé les yeux sur l'état des comptes du club. Il les intéressait, ils en disent quoi ?
Alors, Jean Rottner, il n'était pas vraiment décideur dans ce dossier et il nie toute intervention. Quant à Jean-Marie Bockel, lui, il était aux manettes. Je l'ai appelé... Il n'a pas voulu que je l'enregistre, mais il a accepté qu'on cite ses propos, que nous avons fait lire. Voilà ce qu'il m'a dit de la gestion des hors-terres.
Obtenir des chiffres de leur part a toujours été quelque chose de compliqué. Mais je vous assure qu'on a été exigeants. On les a vus des dizaines de fois. Une chose est sûre, c'est que les hors-terres frappaient régulièrement à ma porte pour faire part de difficultés, d'insuffisances de financement... Je me souviens de demandes permanentes de leur part. Mais bon, pour le reste, je ne me souviens pas des détails.
Ouais, je ne me souviens pas des détails, mais si j'entends bien, donc les Horter avaient des difficultés de financement.
Bien, c'est ce qu'a souvent affirmé la famille Horter, oui. Mais ce que personne ne sait, c'est combien les deux structures lui rapportaient. J'ai demandé à Franck Horter, d'ailleurs, si ce n'était pas problématique, ce mélange des genres entre l'association et une société privée.
C'est clair, on ne va pas se mentir, c'est nous qui avons porté, toute la famille a porté ce projet depuis le début, porte le club. Donc c'est forcément des gens qu'on retrouve des deux côtés, mais il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pour faire vivre le centre que ce système a été imaginé.
pour faire vivre le centre, mais apparemment, il n'y a pas que le centre qui en bénéficie.
Non, c'est aussi une affaire de famille. Hein. Franck et Lionel Orter, par exemple, ont eu plusieurs sociétés qui facturaient des prestations au club. J'ai aussi découvert qu'à 75 ans, leur mère, Marie-Octavie, était toujours salariée de la société Mon Club. Et puis, j'ai trouvé d'autres éléments, disons, étonnants.
C'est-à-dire ?
Par exemple, le père, Laurent Orter, 87 ans, et sa femme sont partis accompagner un stage de 3 semaines en Thaïlande, en janvier, pris en charge par le club. Ils étaient les représentants de la direction, m'a-t-on expliqué. Et puis je me suis aperçu que 2 véhicules de Lionel Orter, une Porsche Cayenne et un Land Rover, qui est basé à la Martinique, avaient leurs assurances auto au nom du club. C'est donc le club qui payait la police d'assurance.
Et comment ils expliquent ça ?
J'ai envoyé un mail à Lionel Orter qui m'a rappelé pour me l'expliquer. Écoutez-le.
Il y a une quinzaine d'années, on aurait eu une négociation avec une assurance qui nous a demandé de mettre le plus de contrats possible dans le contrat, qui permettait de négocier un tarif dans l'intérêt du club.
Les documents que j'ai me montrent que certains véhicules, cette année-là, étaient assurés chez un assureur, et le Land Rover, notamment, était assuré chez un autre assureur. Donc, j'ai quand même un peu de mal à comprendre.
Oui, ça, on a une explication. Hein. Enfin, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais en 2018, le comité a décidé de changer d'assureur.
Et, ouais. Et en changeant d'assureur, vous continuez cette méthode que vous me décrivez comme étant historique, qui consiste à faire assurer un maximum de véhicules et derrière à refacturer pour obtenir de meilleurs tarifs ?
Probablement non, qu'on sort de ce fonctionnement et que... Mais bien sûr que ce n'est pas le club qui paye mes assurances automobiles. Hein. La seule chose que je sais, c'est que chaque année, c'est moi qui paye. Vous savez, moi, on me présente la facture et je paye. Hein.
Je paye, oui. Donc lui dit qu'il remboursait au club les assurances de ses voitures et que grâce à ça, le club économisait de l'argent parce qu'il mettait tout chez le même assureur.
Oui, bon, ce que j'ai vu, c'est que les 2 voitures de Lionel Orter n'étaient pas assurées chez le même assureur. Et le gain pour le club paraît quand même faible. Hein. Le Mon n'a qu'un seul véhicule, un Dacia Logi. On peut juste constater que c'est un système complexe et inhabituel.
Bon, et les collectivités qui versent les subventions au club, elles ne regardent pas ça de plus près ?
Elles semblent étonnamment mal renseignées sur ce club. Par exemple, j'ai demandé à Daniel Bux, le vice-président de l'agglomération, vous savez, s'il avait déjà assisté à une assemblée générale du Mon. Au cours de cette interview, il va se retourner vers l'homme qui l'accompagne, qui est un représentant du service des sports. Écoutez donc notre échange.
Vous avez déjà assisté à une assemblée générale du Mon ?
Personnellement, non. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été invité non plus.
Les autres gros clubs de l'agglomération mulhousienne, ils vous invitent à leur assemblée générale ?
Oui.
Et le Mon ne vous invite pas ?
Je n'ai pas connaissance ou souvenir d'une invitation.
Ça vous paraît pas étonnant ?
Le service des sports y était, je crois. Non ? Non, jamais.
Ni le service des sports ?
Oui.
Voilà, et j'ai demandé à d'autres élus et à une dizaine de membres ou d'anciens membres du club. Tous m'ont répondu que non plus, jamais ils n'avaient participé à une assemblée générale du club.
Ouais, donc on le gère vraiment en famille.
Oui, mais à fonctionner de la sorte, la famille Orter ne s'est pas fait que des amis, notamment dans le milieu politique. Franck Orter a décidé de se présenter aux dernières municipales à Mulhouse, numéro 2 sur la liste La République En Marche. Et Roxana Maracineanu est venue présider le comité de soutien de sa liste en février dernier.
Mulhouse m'a beaucoup apporté et voilà, j'aimerais pouvoir rendre à cette ville ce qu'elle m'a toujours donné. Et je suis là pour soutenir Lara, Franck et toute la liste aujourd'hui présente et vous qui vous êtes engagés au quotidien. Merci à vous.
On entend la ministre des Sports qui soutient donc Franck Orter, mais à ce moment-là, elle est au courant de tout ce qu'on vient de raconter là.
J'ai contacté son cabinet qui affirme que rien ne les avait alertés concernant le Mon ou l'environnement du club. Pourtant, au moment où la ministre s'exprime là, cela fait 1 mois que la procureure de la République de Mulhouse a ouvert une enquête préliminaire qui vise certains avoirs de la famille Orter et la gestion du Mon.
Mais qu'est-ce qui a motivé l'ouverture de cette enquête ?
Officiellement, c'est une lettre anonyme qui a été envoyée au parquet. Ces derniers mois, en fait, plusieurs lettres anonymes ont circulé dans la ville de Mulhouse accusant les Orter de malversation. Certains élus de la région m'ont raconté que pour eux, c'était une vengeance politique. En se présentant contre la maire sortante, Michel Lutz, et son premier adjoint, Jean Rotner, Franck Orter aurait, d'après eux, franchi la ligne jaune. C'est invérifiable. Mais ce qui est certain, c'est que la famille Orter est sous pression, de tous les côtés. La région Grand Est vient de lancer un audit sur ses comptes. Yannick Agnel vient d'envoyer les huissiers au Mon pour se faire payer. Et cette histoire risque bien d'avoir des conséquences politiques durables dans la région de Mulhouse et à la Fédération française de natation.
À suivre donc, et c'est là-dessus qu'on va vous quitter, Sylvain Tronchet. Merci, alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire avec beaucoup plus de détails d'ailleurs, ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. À suivre, dans Secret d'Info, de drôles de pratiques dans l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. C'est une chanson à écouter levée dans son canapé, quelque part entre Muse et Radiohead. C'était Selfless, un des titres du dernier album du groupe new-yorkais The Strokes.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant en duplex de Lille Simon Henry. Bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'investigation régionale Médiacité, vous avez publié une enquête sur une pratique qui semble être très répandue dans le milieu agricole de votre région et qui pourtant est parfaitement illégale. Alors on va expliquer de quoi il s'agit, mais avant tout, faut peut-être préciser que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une spécificité, c'est que très peu d'agriculteurs sont propriétaires de leurs terres.
Oui, tout à fait. Les exploitants à 87% louent leur terrain agricole dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. C'est vraiment une spécificité du monde du Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Après, voilà, je sais pas pourquoi.
C'est-à-dire que les agriculteurs ne possèdent pas leur terre ni leur ferme. Alors, on pourrait penser, lorsqu'un agriculteur part à la retraite ou quitte la région, on pourrait penser qu'il cesse tout simplement de payer son loyer et qu'il s'en va. Sauf que ça se passe pas comme ça.
Non, pas tout à fait. Donc, dès qu'ils savent un petit peu qu'ils partent à la retraite, ils en informent le propriétaire ou les propriétaires, puisque en moyenne, dans le Nord-Pas-de-Calais, les terres appartiennent à 15 propriétaires environ. Et avant de partir à la retraite, ce qui est la coutume ici, c'est que beaucoup de postulants viennent voir le locataire prêt à céder sa terre. Ils discutent de la façon dont ils peuvent reprendre les terres. Et le locataire cédant, justement, à ce moment-là, les informe voilà, d'une somme à l'hectare qu'il leur ferait payer au titre qu'il a amélioré la terre dont qu'il a cultivée et qu'il va mettre à disposition.
Oui, il considère qu'entre le moment où il a pris cette terre en location et le moment où il s'en va, il a bonifié cette terre, donc elle vaut plus cher. Et ça doit se dédommager, c'est ça?
Exactement, ce qui est souvent le cas. Hein, quand un locataire utilise la terre, voilà, il l'enrichit, il la fertilise davantage. Et tout ça, ça se paye. Et donc, il va exiger une somme à l'hectare à son futur candidat qui l'aura choisi.
Ça se paye, mais enfin, c'est parfaitement illégal, non?
C'est illégal, en tout cas, c'est ce qui est illégal, c'est que c'est une somme qui est versée sous le manteau, dans le sens où, lors du changement de bail, la somme n'est pas enregistrée dans le contrat, donc en fait, c'est de l'argent non déclaré.
Oui, de l'argent non déclaré qui peut parfois monter à des sommes assez même astronomiques, puisque vous parlez d'une moyenne qui serait de 10 000 euros l'hectare, et ça peut monter jusqu'à 27 000 euros l'hectare. Alors j'ai fait le calcul, pour une propriété de 65 hectares, vous en citez une, il faudrait verser plus d'un million d'euros, enfin 1,7 million.
C'est ça, c'est ce qu'un agriculteur m'a dit au cours de mon enquête. Après, ça s'explique par une pression foncière très forte dans le Nord-Pas-de-Calais. La terre est très rare. La demande est très forte par rapport à l'offre. Et donc, du coup, les agriculteurs en place en profitent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver un candidat pour reprendre leur terre. Et donc, ils profitent de cette situation-là pour gonfler les prix et se mettre en position de force parce qu'ils savent que, de toute manière, ils arriveront à louer cette terre à n'importe quel prix.
Comment est-ce qu'on fait pour que cette somme ne soit pas visible, notamment aux yeux du fisc? Parce que 1 million d'euros en liquide, enfin, comment on fait aujourd'hui?
Alors, le pas de porte, avant, il se réglait, selon les agriculteurs que j'ai interrogés, sous forme de liquidité, sous forme de mallette remplie d'argent dans les années 70-80. Maintenant, les banques sont devenues beaucoup plus rigides par rapport à la fourniture de liquidité. Ce qui est coutume de faire, c'est que le locataire cédant et le locataire entrant s'entendent sur la méthode à effectuer, c'est-à-dire que souvent le locataire entrant va reprendre quelques bouts du bâtiment, des machines, des biens immatériels, et à travers cela, il va gonfler cette somme d'actifs et il va inclure le pas de porte à l'intérieur de façon à ce que comptablement ça soit un petit peu difficile à tracer.
Oui, ce sont des achats surévalués, donc surfacturés. Et c'est la différence qui constitue le pas de porte. Mais les propriétaires, ils sont au courant de ce trafic, on peut dire ?
Oui, ils sont parfaitement au courant. Et justement, les propriétaires, selon les agriculteurs que j'ai interrogés, ils commencent à profiter de cette situation, soit pour court-circuiter directement l'échange entre le locataire entrant et le locataire cédant, c'est-à-dire que le propriétaire va aller voir le locataire entrant, le futur, et du coup, il va lui dire, écoute, ça ne c'est pas avec lui que tu vas verser son pas de porte, mais c'est avec moi, puisque voilà, je peux aussi dénoncer votre arrangement. Et dans d'autres cas où le propriétaire n'intervient pas dans la transaction du pas de porte, lui va carrément aussi demander en plus ce qu'on appelle un chapeau, donc c'est-à-dire une somme supplémentaire au locataire entrant en plus du pas de porte qu'il aura versé au locataire sortant.
Mais c'est très répandu ça, parce que ce que vous nous dites est quand même assez hallucinant. C'est très répandu ou c'est marginal ?
C'est une tradition en fait, même si c'est illégal, c'est dans les mœurs, il y a une omerta totale autour de ce sujet, c'est-à-dire que personne se dénonce, donc du coup il y a très peu de poursuites judiciaires, et il n'y a surtout pas intérêt à le faire, parce que si un agriculteur tente de poursuivre un agriculteur sortant qui lui a demandé un pas de porte substantiel et du coup illégal, il peut se faire griller par la communauté dans le sens où la confiance est rompue et que tout le monde agit comme ça. Donc voilà, on sait que de lui, on n'obtiendra pas de porte et surtout qu'il va nous dénoncer.
Et ça a des conséquences très concrètes sur l'installation de jeunes agriculteurs, parce que quand vous êtes jeune, par exemple, ou vous voulez vous reconvertir dans le bio qui va nécessiter des investissements assez chers, bah, vous n'avez pas forcément d'argent pour payer ce pas de porte, c'est-à-dire que vous êtes handicapé.
Exactement, c'est justement tout le problème du marché foncier ici. Les surfaces d'exploitation agricole ont tendance à augmenter de 8 hectares par an en moyenne. C'est-à-dire que les grands en profitent. C'est un système qui profite aux grands, alors que les petits, les jeunes agriculteurs qui ont peu de budget doivent prévoir un surplus justement pour payer ce pas de porte et tenter d'obtenir même ne serait-ce qu'un hectare.
Alors vous évoquiez tout à l'heure l'omerta qui règne autour de ça, on peut en parler deux minutes quand même parce que vous parliez de la communauté agricole mais même au-delà, enfin je veux dire la chambre d'agriculture ne veut pas vous en parler visiblement, les syndicats à l'exception si j'ai bien compris de la Confédération paysanne ne veulent pas en parler.
La Confédération paysanne, oui, justement, voilà, dénonce cette pratique. Elle est plutôt pour l'installation de jeunes exploitants. Et c'est vrai que la Chambre d'agriculture, qui est détenue à près de 85% par la FNSEA et Coordination rurale, ces deux organisations n'ont pas voulu répondre à mes questions. Après, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils n'ont pas daigné me répondre.
Bien, merci pour toutes ces explications, Simon Henry. Alors, je précise que votre enquête s'intitule « Le pas de porte, ce dessous de table qui empoisonne l'agriculture nordiste ». Et je précise aussi qu'elle est publiée sur le site Médiacité qui fonctionne sur abonnement. C'est la fin de Secret d'Info, une émission qui était préparée par Martin Broyer, qui était réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Donatien Cahu. Merci également à nos amis de France Bleu Nord qui nous ont permis de réaliser ce duplex. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.